16h04, nous sommes vendredi 25 septembre. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. D'abord, vous dire qu'on a autour ce matin, c'est confortable, 9 degrés, là, c'est un matin de septembre, avec un ciel qui est partiellement nuageux. Aujourd'hui, on prévoit une alternance de soleil et de nuages, faible risque de pluie ce matin, ça va se dégager par la suite, et le maximum aujourd'hui autour de 17. Pour ce qui est de la nuit prochaine, autour de 8 degrés. Pour la fin de semaine, samedi, c'est du soleil avec un maximum de 24, quelques nuages à travers ça. Et dimanche, 27 degrés. Et là aussi, une alternance de soleil et de nuages. Bon, parlons bien sûr de la COVID et parlons des mesures et des recommandations faites par la santé publique. En résumé, ce qu'on nous dit pour les prochains jours, les prochaines semaines, c'est de limiter nos contacts sociaux. On est en famille, on va travailler, mais pas de soirée avec les amis, puis pas de party de famille, puis pas d'activité. Même si, comme tel, il n'y a pas une interdiction, là. Et je disais, on est un peu confiné sans l'être officiellement. Et là, ça va dépendre de la bonne volonté des gens, puis est-ce qu'on adhère aux principes que le gouvernement met sur la table. Quand Christian Dubé dit « si ça continue comme ça », en parlant des éclosions, on va finir par frapper le mur. Et là, les gens, sincèrement, là, ont de la misère à suivre. Parce que c'est vrai que le nombre d'éclosions augmente. On note une légère augmentation pour ce qui est des hospitalisations. Mais on regarde ça et on dit que ça n'a rien à voir avec la première vague. Et les gens qui sont touchés sont plus jeunes. Et on se rend compte qu'il y a moins de séquelles. La réponse de la santé publique, c'est de dire « oui, c'est vrai actuellement, mais à ce rythme-là, les gens plus jeunes qui sont contaminés vont contaminer d'autres personnes et probablement, là, des gens plus vulnérables. Et là, ça va venir mettre une pression additionnelle sur le système de santé. » Déjà, on nous explique qu'à l'action de grâce, oubliez les parties de famille encore une fois, puis la lueur d'espoir, c'est Noël. Là, on pourra peut-être fêter de façon plus traditionnelle. Et je sens dans vos courriels cette espèce de volonté, prise de conscience, de dire, bon, on veut éviter de revivre ce qu'on a connu au mois de mars, mais en même temps, il y a beaucoup de scepticisme. Des gens qui sont dans des régions considérées comme vertes, qui ne comprennent pas trop pourquoi ces mesures-là leur sont suggérées. Tu ne peux pas recevoir des amis à souper, c'est souhaitable en tout cas, mais les bars, les restaurants sont ouverts. Puis là, tu ne veux pas les fermer déjà que les restaurateurs en arrachent. C'est un message qui ne passe pas très bien. Et on sait, il y a eu de la confusion, mais je ne veux pas en remettre là, sur la confusion, le message, il est relativement clair pour les prochains jours. C'est de limiter à ce qui est vraiment essentiel nos interactions avec les autres, tout en respectant le fameux 2 mètres, le port du masque dans les endroits publics fermés, puis de se laver les mains. On revient, tantôt je disais à la blague, on est le 25 mars, bien ça fait un peu penser à ce contexte-là. L'autre volet, quand je parle aussi d'espèce de confusion, je prends le sport scolaire, sport étudiant. Il y a une directive de santé publique qui disait s'il y a un cas dans une école, les équipes sportives ne peuvent pas jouer contre d'autres écoles. On a vu la situation dans Chaudière-Appalaches. Là, il y a des gens qui disent, ben voyons donc. D'abord, on revient avec l'idée de base que le sport est un atout pour garder des jeunes à l'école. Il y a eu des rencontres dans la région de Québec parce que des étudiants menaçaient de faire la grève. Ça montre l'importance d'eux. Ils disaient, s'il y a un enfant de secondaire 1 qui a un problème, qui est testé positif, on n'est pas pour pénaliser l'école au complet. Là, ça a l'air que finalement, le ministère de l'Éducation, après consultation avec la santé publique, va officialiser la chose aujourd'hui. Mais c'est à peu près temps. Déjà qu'il y a des irritants, on n'est pas obligé d'en avoir qui sont inutile. Et je pense que ce serait important, quand on envoie des messages aux Québécois, de les faire très clairement. Le docteur Arruda, s'entends-tu que dur à suivre des fois, là? Là, je parle même pas des histoires de police, qui n'est pas son domaine, puis qui a mis le gouvernement dans le trouble en disant qu'il y avait des réunions, puis tu sais, alors que la loi est claire, tu peux pas rentrer chez les gens comme ça sans avoir un mandat ou un motif très précis. Tu sais, tu peux pas dire « Je viens de force entrer chez vous pour savoir combien vous êtes à soir pour la soirée, là. » Pas le droit de faire ça. Alors, c'est une semaine quand même d'ajustement, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est plus grave, c'est la situation dans les centres de soins de longue durée. Là, on nous garantit que les mesures sont prises. Vous comprendrez qu'il y a des gens qui ont des doutes. Et si vous avez vu le reportage de l'émission Enquête hier de Madeleine Roy, les événements du printemps, tous les ingrédients qui ont conduit à la crise, et je vous le dis, à mes yeux, c'est le plus grand scandale de l'histoire récente du Québec. Et ce n'est pas strictement parce que des gens sont morts, c'est de la façon dont ces gens-là sont décédés. Et je relisais hier le rapport sur Aaron, c'est épouvantable. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. L'espèce de lenteur de la machine, 8 inspections dans le cas d'Aaron, et avec des constats qui aboutissent finalement à rien, une volonté à un moment donné de prendre l'établissement en tutelle, mais là, il faut aller chercher la requête. Et pendant ce temps-là, le personnel ne se présente pas. Nos vieux sont laissés, abandonnés, avec des couches pleines, déshydratés. C'est dégueulasse quand tu lis ça. Tu ne peux pas croire que c'est arrivé au Québec en 2020. Puis le gouvernement qui refuse toujours de faire une vraie commission d'enquête. Indépendante, avec des pouvoirs, avec des moyens. Là, on préfère parsemer ça de petites enquêtes, à gauche et à droite. Et Marguerite Blais, qui dit dans le fond que le gouvernement ne l'a pas écouté, que la voix des aînés qu'elle porte n'a pas été entendue. Et que finalement, je la cite, « j'ai le pouvoir que le premier ministre me donne ». Sous-entendre que le premier ministre n'a pas donné grand pouvoir et qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose dans ce contexte-là. Et là, vous avez la protectrice des citoyens qui nous arrive avec son rapport, Marie Rinfret. Elle prêche dans le désert depuis le début. Elle fait des rapports, puis a plus ou moins de suivi. Et elle dit, il est temps de corriger les problèmes qui sont dénoncés depuis longtemps. C'était vrai avant, puis c'est vrai aussi après. Je la cite, « L'alarme, on l'a sonnée à plusieurs reprises, mais c'est inacceptable que rapport après rapport, où on constate la pénurie de personnel, l'épuisement des effectifs, le manque d'intervenants, d'intervenantes qualifiées, des endroits vétustes. À chaque fois, on reporte les correctifs. Puis tous les gouvernements là, peuvent se blâmer dans ce dossier-là. Parce que des vieux, ça ne peut pas trop chialer. Mais c'est épouvantable, ça aussi. Là, le gouvernement s'engage à corriger la situation. Puis la question se pose sur les mouvements de personnel. Parce qu'on sait là, qu'un des facteurs qui a mis le feu le printemps dernier, ce sont des employés qui passaient d'une zone à l'autre puis d'un établissement à l'autre. Là, on nous garantit que ça sera occasionnel ou en tout cas, il va falloir le justifier. Mais quand vous parlez aux gens de terrain, là, puis les courriels que je reçois, puis la chronique de Patrick Lagacé est intéressante ce matin là-dessus. C'est pas juste l'argent, là. Pour les infirmières, pour les enseignants, on manque de profs, on prend des orthopédagogues qui s'occupent des enfants qui ont des problèmes, puis on leur dit « va enseigner ». Pendant ce temps-là, ils ne peuvent pas aider des enfants qui ont des problèmes. Les horaires de travail des infirmières qui quittent, puis des infirmières qui sont à bout et qui voient arriver cette deuxième vague. Puis je rajoute à ça, dans le portrait, dans l'équation, les patients non-COVID. Puis là, tu te poses des questions sur des choix. T'sais, je comprends qu'il faut dépister, mais est-ce que tu prends des infirmières pour faire ça? Il n'y a personne d'autre qui peut faire ça. Là, je sais qu'on a fait appel à d'autres personnes maintenant. Mais tu sais, je regarde là, des gens qui m'écrivent, là, des traitements de cancer qui sont repoussés, qui sont retardés. Docteur Champagne qui nous disait cette semaine, le président de l'Association des hématos et des oncologues, qu'habituellement, dans sa pratique, il voit des cas en début, donc, pour lesquels il y a de l'espoir puis des traitements qui peuvent se faire. Là, il voit des cas avancés pour qui le pronostic n'est pas bon. Fait que c'est pas de faire peur au monde, puis, mais c'est ça la configuration du réseau de la santé actuellement. Et juste pour en ajouter un peu, dans la presse ce matin, on nous dit qu'il y aurait eu une hausse des morts chez les personnes plus âgées au cours de l'été. On comprend qu'il y en a eu beaucoup au printemps. Au début de l'été, ça avait baissé parce que les gens étaient décédés. Puis on comprend que quelqu'un qui est dans un CHSLD, normalement, l'espérance de vie n'est pas très élevée. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu une augmentation des morts? Je vous dirais que tous les experts consultés disent « Soyons quand même prudents avec les chiffres, là, puis regardons comment ça évolue. Est-ce que ce sont des gens non-COVID qui sont décédés parce qu'ils n'ont pas eu de traitement? » On ne peut pas tirer de conclusion. Il y a un chiffre, il y a une petite lumière qui s'allume et il faut la regarder d'un peu plus près. Et un mot pour vous dire que dans The Gazette ce matin, c'est un exemple, mais il est intéressant. Ça se passe à Montréal, une ligue de hockey senior. Et un des joueurs a testé positif. Et juste préciser que les deux équipes jouaient donc, avaient des vestiaires. Il y avait 11 joueurs par vestiaire. Vous comprenez que le monde était tassé, les gens portaient leurs masques, mais quoi qu'il en soit, il y a un qui a été testé positif, qui a averti les autres. Au total, il y en a 8 supplémentaires qui sont positifs. Il y en a 3 qui sont négatifs, puis les autres attendent les résultats. Et ça s'est passé mercredi de la semaine passée. Et les gens ont de la misère à voir comment on fait le suivi. Santé publique dit on va tester, puis on va remonter quand on a des cas positifs. Mais ça veut dire que pendant cette période-là, il y a peut-être d'autres personnes qui ont pu être contaminées. Ça ramène tout le débat sur l'application. Québec n'est pas prêt à aller de l'avant, en tout cas pour l'instant. Puis pour que ça marche, il faut qu'il y ait une adhésion quand même assez forte. Bon, dans les autres dossiers, une décision importante qui a été rendue hier, l'auteur Yvan Godbout, qui a été acquitté des accusations de production et de distribution de pornographie juvénile. Je vous raconte l'histoire rapidement. Le livre, c'est « Hansel et Gretel ». Et on raconte, et c'est l'auteur qui décrit une agression sur une petite fille de 9 ans, une agression commise par le père. Et évidemment, c'est graphique. Et je me souviens de l'histoire parce qu'une auditrice, une enseignante qui avait vu le livre chez Costco, trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Et on avait parlé, évidemment, avec cette auditrice qui, par la suite, a porté plainte. De ne pas être d'accord puis de trouver ça scandaleux, c'est une chose, mais là, ce qui est arrivé, c'est que le DPCP a décidé d'y aller avec des accusations contre l'auteur et contre son éditeur. Vous comprenez l'impact. Et M. Yvan Godbout, donc, qui est l'auteur, est complètement dévasté. Il raconte un peu partout à quel point sa vie a basculé. Même chose pour son éditeur, des pensées noires, des pensées suicidaires. Et le juge Blanchard qui a rendu la décision... Je voudrais quand même revenir là-dessus parce que c'est majeur. Il dit, dans le fond, qu'il faut tenir compte du contexte. Il ne comprend pas trop pourquoi, d'ailleurs, le DPCP a accusé dans ce domaine-là. Des citoyens risquent d'être potentiellement accusés de possession ou de distribution de porno juvénile en consultant des livres à la bibliothèque. Et là, on donne des exemples d'un livre comme... Patrick Sénécal, Christine Brouillette, Stephen King, est-ce que tu vas... Parce qu'il y a la description, il y a une différence entre ça. Et là, je comprends M. Godbout ce matin qui se dit, OK, je suis acquitté, mais le DPCP a 30 jours pour décider d'en appeler ou pas. Là. Alors, est-ce qu'ils vont vouloir pousser cette notion-là ou reconnaître que c'est une forme de liberté d'expression? Autre décision, cette fois aujourd'hui, qui est attendue, concerne Nathalie Normando, qui va savoir finalement si elle aura un procès ou non. Ce sont des procédures qui s'étirent, qui n'en finissent plus. Et quand je l'ai interviewée il y a quelques mois, elle voulait un procès pour dire « Je vais démontrer mon innocence, je veux être acquitté. Je veux pas gagner sur un point de droit sur des questions de délai. » Mais à un moment donné aussi, là, tu peux pas mettre ta vie en pause tout le temps parce que le système de justice se traîne les pieds au Québec, là. Par une série de procédures. Donc, il y a des co-accusés, Marc-Yvan Côté, des gens de la firme Roche. Et dans le cas de Nathalie Normando, donc ce matin, on devrait savoir ce que le juge décide dans ce dossier-là, et c'est extrêmement important. Autre histoire, c'est notre ami le maire, l'ex-maire de Terrebonne, Jean-Marc Robitaille. C'est un entrepreneur qui voulait faire affaire dans le coin, puis qui a compris avec Normand Trudel que pour brasser des contrats avec Terrebonne, il faut donner des pots de vin, il faut donner des enveloppes. Alors, il aurait compté avoir remis 21 000 $ à Daniel Bellec, qui était le chef à l'époque, le chef de cabinet du maire Robitaille. Vous avez les détails dans le Journal de Montréal, le procès qui se poursuit. Il y a aussi le Beach Club qui a écopé d'une suspension de 20 jours au lieu de 40 de son permis, décision de la Régie des alcools, qui aurait pu lui imposer une sentence plus sévère. Alors, on parle de problèmes d'intoxication récurrents, de violence. La police qui est prise avec, évidemment, tu sais, t'es à point de calumet, là, fait que ça vient chercher beaucoup d'effectifs, et que ce bar à ciel ouvert s'en tire quand même assez bien. Vous regarderez les détails de la décision dans le Journal de Montréal. Ils ont noté 93 manquements dans ce dossier-là. Aussi, je vais vous parler de la chasse. Dans le parc de la Vérendrye, il y a un problème. Il y a des Autochtones qui font un barrage. On a fait des appels cette semaine et tout ça, et ils ne laissent pas passer les gens qui ont des armes. Ils fouillent les voitures, lac barrière, entre autres. Et là, le ministre responsable dit, à un moment donné, il va falloir que la sécurité publique intervienne. Puis, les auditeurs qui m'écrivent en disant, moi, j'ai mon permis pour aller à la chasse, là. Si je ne peux pas y aller, qu'est-ce qui se passe? Et l'autre question, puis je n'ai pas la réponse, Québec vous dit de ne pas vous déplacer d'une région à l'autre. Puis il y a des gens, là, qui partent en fin de semaine, puis dans les fins de semaine à venir, pour aller chasser dans d'autres régions. Est-ce qu'on va les empêcher? Est-ce que... même s'il n'y a pas là, des barrages comme tels, est-ce qu'il va y avoir des vérifications comme on a vu le printemps dernier? Disons que c'est une très bonne question. Et puis un mot sur ce qui se passe aux États-Unis. Le président Trump, pour une deuxième journée consécutive, qui refuse de dire s'il va respecter les résultats des élections de novembre prochain. On lui demande tout le temps, est-ce que vous allez faire une transition pacifique si vous êtes battu? Il lui répond très vaguement, se contentant de dire qu'il verra les résultats, qu'il y a des doutes sur les élections. Il a déjà dit, d'ailleurs, si je perds, c'est que c'est truqué. Et quelle sera non seulement sa réaction à lui, mais la réaction de ses partisans quand on voit les affrontements entre les pro-Trump et les antifas, les gens plus à gauche, depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. 6h22, la 15, monsieur.